Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, quelle réponse apporter à l'antisémitisme ? Une fois n'est pas coutume, c'est un sujet dans le prolongement direct de notre débat de la semaine dernière que nous vous proposons ce vendredi. À nouveau, une réflexion sur l'antisémitisme, car c'est ce sujet qui a dominé l'actualité politique de ces derniers jours. Vendredi dernier, suite à la publication du bilan annuel des actes antisémites par le ministère de l'Intérieur, nous nous interrogions sur les raisons de cette hausse et sur les liens qu'il pouvait y avoir avec un autre phénomène, celui de l'antiparlementarisme. Depuis, beaucoup d'événements ont eu lieu, à commencer par l'agression subie samedi en pleine rue en marge d'une manifestation des Gilets jaunes par un des producteurs de France Culture, Alain Finkielkraut. Cette agression a provoqué de fortes réactions, le plus souvent pour condamner les propos tenus à son encontre. Un des auteurs est convoqué devant le tribunal correctionnel de Paris dans 2 mois. Mardi soir, une série de manifestations ont eu lieu en France pour dénoncer la montée de l'antisémitisme. Lors du dîner annuel du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, Emmanuel Macron a affirmé vouloir élargir la définition de l'antisémitisme à l'antisionisme sans modifier pour autant le code pénal. Une proposition qui suscite beaucoup d'interrogations. Alors, quelle réponse apporter à l'antisémitisme ? C'est la question du soir pour notre club des idées du vendredi, en compagnie de deux de ses membres, Géraldine Mühlmann. Bonsoir.
Bonsoir Hervé.
Professeur de sciences politiques et de philosophie à l'Université Paris 2. Laurent Bigorgne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Vous êtes un esprit libre, si j'en crois le titre du portrait que vous consacre Le Figaro. C'était dans l'édition d'hier. Et puis si j'en crois, il n'y a aucune raison de ne pas le croire d'ailleurs, hein, Laurent Bigorgne.
Il faut toujours croire Le Figaro, non?
Ça, ce sera peut-être l'objet d'un prochain débat. Notre invité ce soir, c'est Magali Lafourcade. Bonsoir.
Bonsoir à tous.
Vous êtes magistrate, secrétaire générale de la CNCDH, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Je renvoie à un ouvrage que vous avez publié il y a quelques semaines de cela, Les droits de l'homme au PUF dans la collection Que sais-je. Alors, je voudrais qu'on commence la discussion avec les rassemblements qui ont eu lieu mardi dernier en France et notamment à Paris, rassemblements contre l'antisémitisme, rassemblements qui, évidemment, ne sont pas suffisants pour lutter contre l'antisémitisme. Mais est-ce que vous diriez que ce sont des moments nécessaires, Magali Lafourcade ?
Oui, bien sûr, ce sont des moments nécessaires. La symbolique est extrêmement forte. Il faut, dans ces moments-là, que la nation indivisible, telle qu'elle est pensée dans la Constitution française, se rassemble. Ces moments-là sont des moments de creuset d'union nationale. Donc, le but de ces rassemblements, c'est de montrer que face à une attaque à la dignité de la famille humaine, face à une attaque contre une appartenance, hein, quelle qu'elle soit, la famille humaine doit se réunir et que c'est le cadre fort de la République. Il faut quand même dire qu'après 4 années de baisse consécutive, les chiffres du ministère de l'Intérieur concernant les actes antisémites montrent une recrudescence majeure et que cela nous dit quelque chose de ce qui est en train de se passer.
Et de ce point de vue, est-ce que vous diriez que l'unité, notamment l'unité politique, évidemment il n'y avait pas que des politiques hein, bien sûr dans la manifestation et heureusement, mais que cette unité politique, elle a été au rendez-vous et sans ambiguïté, disons.
Oui, je pense que là c'était assez net. Ce qui est très important, c'est qu'on ne reste pas dans un affichage politique, mais qu'après il y ait des actes, hein, des actes peut-être être plus construit, plus élaboré, basé sur des données scientifiques, mais nous allons sûrement en discuter ce soir. Et je crois que ce qui est important, c'est de marquer le coup, mais au-delà de dérouler une vraie politique publique.
Marquer le coup, c'est déjà une première chose, un acte nécessaire, Géraldine Mühlmann.
Je crois que ça ne sert à rien en termes de, je vous le dis franchement, en termes de remède hein, contre l'antisémitisme. Je pense même que ça agace beaucoup les antisémites de voir tant de gens rassemblés pour dire que c'est une chose épouvantable que l'antisémitisme. Là où par contre c'est très important...
Ça veut dire qu'il ne faudrait pas le faire?
Non, ou... je n'ai pas du tout ce que je dis. Je dis juste qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. Il ne faut pas être naïf dans l'appréciation des remèdes. Là où c'est par contre très important, majeur, c'est notamment pour les juifs de savoir que l'antisémitisme est en... semble-t-il, il faut voir dans le détail aussi, en recrudescence, mais qu'ils ne sont pas abandonnés par le pouvoir, les institutions, une grande partie de l'opinion publique, les médias qui en parlent, on ne peut pas dire que les médias n'en parlent pas. Évidemment que ça crée un frein s'il y avait une espèce de pulsion antisémite débordante. Mais encore une fois, je ne veux pas être naïve sur les remèdes. Ce qui est très important, c'est de dire, voilà, quand il y a eu des drames absolus dans l'histoire, il n'y avait pas toutes les institutions d'un pays qui défendaient les juifs. Hein, c'est la grande différence. Et donc ça, moi, je trouve ça extrêmement rassurant. C'est très bien. Il faut continuer à le dire et à le montrer.
Donc c'est loin d'être suffisant. Mais en tout cas, c'est quelque chose de rassurant et d'important. Laurent Bigorgne, vous êtes aussi de cet avis ?
Ouais. Complètement nécessaire, absolument indispensable et pas du tout suffisant.
Et d'ailleurs, il y a le rassemblement de mardi soir, il y a le dîner du CRIF aussi, qui a été un moment important. Le président est allé témoigner. Il y a quelque chose qui est passé inaperçu, parce que ça dit aussi toute l'impuissance du politique face à ce phénomène, à certains égards. C'est la visite qu'a faite le président de la République en Alsace mardi, qui s'est quand même conclue par la fermeture du Facebook Live, qui était dédié à sa visite, parce qu'il y a eu menace
de France 3,
de mort.
Voilà, c'était France 3 qui avait proposé un Facebook Live, et ils ont été assaillis par des menaces, voilà, des insultes
juifs,
antisémites.
Appel au meurtre du président, appel au meurtre des juifs, et donc il y a maintenant une vraie question politique qui est posée, c'est que si je dis ça à votre antenne, évidemment je vais avoir de gros problèmes, et ce sera normal, hein, et j'aurai à en rendre compte à la justice. Je le dis sur Facebook, je n'ai aucun sujet, et je n'ai rien à craindre. Et donc la mobilisation c'est bien, la symbolique, c'est bien. L'unité républicaine, c'est bien. Les actes, c'est mieux. Et donc, il y a aussi un moment où il faut traiter le problème. Là où il s'exprime aujourd'hui, et j'en viens moi tout de suite aux réseaux sociaux, parce que il y a évidemment aujourd'hui une prolifération de sites, de paroles sur les réseaux sociaux qui sont juste inacceptables et qui créent à la fois de la peur et puis de la violence.
Ah bah, puisque nous sommes sur les réseaux sociaux, allons-y tout de suite et profitons d'avoir une magistrate à nos côtés avec vous, Magali Lafourcade. Les réseaux sociaux, est-ce que vous diriez que ça doit être aujourd'hui une priorité, une des priorités en tout cas de l'action contre l'antisémitisme? Il y a un projet de loi, enfin une proposition de loi qui va être bientôt déposée par la députée Laetitia Avia, qui avait fait un rapport justement notamment sur les questions de cyberharcèlement. Avec une loi à venir, on manque de dispositifs juridiques pour s'attaquer à ce phénomène sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Tout à fait. Pour moi, c'est évident que c'est une priorité. D'ailleurs, la CNCDH l'avait noté dans ses différents rapports. Ce qu'on peut dire, j'étais magistrate et je faisais du droit pénal. Ce qu'on peut dire pour faire reculer un phénomène infractionnel, c'est pas l'exemplarité de la peine qui compte, hein, c'est le taux d'élucidation. C'est-à-dire que plus un infracteur est persuadé qu'il va être poursuivi pour les actes qu'il a commis, plus le phénomène infractionnel régresse. Or, sur les réseaux sociaux, les personnes qui se banalisent leurs paroles racistes, antisémites, etc., ont la quasi-certitude de ne jamais être poursuivies. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce qu'il y a un manque de moyens juridiques. Cette proposition de loi va dans le bon sens, à mon avis, puisqu'elle permet d'aller plus vite pour enlever des contenus haineux, etc., et mettre un peu plus de responsabilité sur les fournisseurs d'accès à Internet et sur les réseaux sociaux. Mais au-delà, il faut aussi veiller à ce que la tuyauterie permette d'assurer en continu l'apport auprès des juridictions des informations sur les infracteurs. Or aujourd'hui, quand on regarde Pharos, donc la plateforme de signalement en ligne des contenus haineux sur Internet,
qui dépend du ministre de l'Intérieur,
voilà, tout à fait, qui est une plateforme extrêmement utile et performante, elle est centrée essentiellement dans son activité aujourd'hui sur l'apologie de terrorisme. Et tous les renforcements de ces moyens sont allés vers des questions de terrorisme. Elle a aussi dans ses attributions la pédopornographie et les contenus haineux sur Internet. Il est clair qu'elle est complètement débordée, cette plateforme. Et les magistrats qui s'occupent après de diriger les enquêtes, ils ne sont pas approvisionnés parce que les plateformes sont trop chargées, parce que les enquêteurs ne peuvent pas mener les enquêtes de manière approfondie. Et puis aussi, il y a aussi tout le problème de l'accueil des victimes. C'est-à-dire que les gens qui vont déposer plainte peuvent se trouver aussi face à des gendarmes ou des policiers qui sont réfractaires à ça. Donc il faut des enquêtes de victimation pour essayer de comprendre ce qui se passe entre le phénomène subi par les victimes et la non-réponse judiciaire.
Internet, les réseaux sociaux, c'est un des lieux de la lutte contre l'antisémitisme, Géraldine Neumann ?
Oui. Alors après, toute la question est de savoir comment on fait pour améliorer l'outil juridique. Là, j'avoue qu'il y a quand même des débats à voir. Pour l'instant, je n'ai pas les réponses. Je trouve très bien, comme vous, Magali Lafourcade, que non pas qu'on oblige systématiquement à sortir de l'anonymat sur Internet, ce qui pose quelques questions, même si notre état de droit suppose aussi une forme de responsabilisation de la parole publique. Bon. Et c'est quand même de la parole publique, hein, même si je sais que c'est un vrai sujet de savoir si les réseaux sont du privé ou du public, du grand privé. Bon, en fait, il faudrait peut-être un moment qu'on dise que c'est du public. Mais disons que l'anonymat, on pourrait éviter peut-être de le systématiser, mais en tout cas qu'on rende possible que les plateformes, elles, sachent qui il y a derrière un pseudo et ce qui faciliterait les plaintes. Parce que sinon, il faut attendre que dans le cours de la plainte, on éclaire qui a dit. Bon, c'est très très long. Donc là, je pense que c'est important qu'il y ait une transparence au moins possible, rapidement, que les plateformes sachent.
Donc, sachant que manifestement, quand il y a vraiment une volonté derrière de trouver l'identité,
on trouve, oui, bien sûr. Il y a un problème de temps.
L'anonymat absolu est extrêmement rare sur les réseaux sociaux. Voilà, on parle de pseudonymat, voilà, d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelques informations qu'on laisse derrière soi, y compris quand on est. Quand on s'affiche derrière un pseudo.
Je vous laisse passer le gérard. Après, sur le plan juridique, très vite, c'est quelque chose que je défends depuis longtemps. Je l'ai défendu aussi dans une forme d'hostilité à la loi fake news que j'avais. Pas sur tout, mais sur cet aspect. Je pense que quand on veut dire qu'Internet, c'est comme la radio, ou c'est comme la presse, ou c'est comme la rue, puisqu'on parle d'Alain Finkielkraut, c'était dans la rue. On a une loi en France qui s'appelle la loi 1881, qui porte non pas seulement sur la presse, comme on le croit souvent, mais sur tous ces lieux. Et si on veut dire qu'Internet, c'est pareil, je pense que c'est très important qu'on harmonise les sanctions et les délits et qu'on se mette dans le cas de cette loi, quitte à la toucher pour que ça touche les réseaux Internet. Cela dit, ils ne sont pas très heureux de rentrer dans les catégories juridiques de cette loi, mais il faut gagner ce rapport de force d'une façon ou d'une autre. Et je suis beaucoup plus inquiète par les petites lois d'exception. C'est ce qui s'est passé pour les fake news, la loi d'exception pendant les périodes électorales, pendant une petite période. Ça. Ah bon, pourquoi ? Parce que c'est plus grave là qu'à d'autres moments. Pareil, l'apologie du terrorisme, on l'a sorti de la loi 1881, je peux le comprendre, parce qu'il y a souvent des risques de passage à l'acte. Mais on en a sorti un de délits, on ne va pas tous les sortir, ou des délits d'expression, antisémites, racistes, vont se retrouver dans le droit ordinaire. En plus, je pense quand même que l'expression, ce n'est pas pareil que les actes, et que c'est pas mal qu'on ait une loi pour l'expression. Donc je reconnais, engagée, parce que j'ai écrit sur la liberté d'expression, pour harmoniser, pour qu'on n'ait pas des états d'exception, mais un seul grand état de droit sur l'expression, sur tous les supports.
Juste avant de redonner la parole à Laurent Bigorgne, sur la loi de 1881, Magali Lafourcade, est-ce que c'est une loi qui permet aujourd'hui de lutter quand même de manière relativement efficace, on va dire, contre ces phénomènes de haine raciste et en particulier contre l'antisémitisme ?
Oui, moi je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, puisque je considère que cette loi, en fait, c'est très très bien adapté aux évolutions technologiques, vu qu'il s'agit en fait de défendre la liberté d'expression, c'est ça la règle, et de condamner les débordements de la liberté d'expression et les expressions racistes sont des débordements qui sont inacceptables dans une société vu les valeurs qu'on défend. Et cette loi permet beaucoup de choses.
Laurent Bigorgne.
Oui, il y a un absent dans la pièce, c'est les plateformes elles-mêmes. C'est-à-dire que je suis tout à fait pour qu'on aille évidemment rappeler les uns les autres à leur responsabilité et puis éventuellement qu'on les sanctionne.
Mais elles ne veulent pas, bien sûr. Elles ne veulent pas entrer dans cette loi.
Il y a les plateformes elles-mêmes. Et je vais vous raconter une anecdote qui renvoie à un édito qui était paru dans le New York Times il y a deux ans, où un auteur disait, voilà, je me suis livré à une expérience, j'ai créé un boot, un petit robot, et ce petit robot sur Twitter, j'ai parlé de Facebook, donc maintenant je parle de Twitter, me permettait d'aller déceler les membres de l'ultra-droite américaine qui se faisaient passer soit pour des imams, soit pour des rabbins, et qui intervenaient dans des conversations en disant, vous savez, moi je suis imam, je peux vous dire une chose, c'est que vraiment j'en peux plus des musulmans. Vous savez, moi je suis rabbin, je peux vous dire une chose, c'est que les juifs sont des gens horribles. Et ce petit boot a fini par avoir un taux d'effectivité de 100%, c'est-à-dire qu'il arrivait à démasquer ce qu'on appelle les trogues, c'est-à-dire tous ceux qui masquaient leur identité et se faisaient passer pour quelqu'un d'autre en allant squatter ces conversations. Qu'a fait Twitter ? Il a débranché le boot. Donc à un moment ou un autre, c'est pas seulement la responsabilité des individus, même si elle est primordiale dans le débat qu'on a ce soir, c'est aussi la responsabilité éditoriale et les choix éditoriaux concrets ou par défaut de ces acteurs.
Est-ce qu'on peut aussi parler d'une responsabilité, alors qui ne serait pas de même nature et qui est peut-être plus atténuée aujourd'hui en tout cas, mais qui serait une responsabilité des médias et de la presse, Géraldine Mühlmann. Ce qui a beaucoup été dit ces dernières années, et notamment avec un cas qui était le meurtre de Sarah Halimi. Sarah Halimi a été tuée, c'était une sexagénaire, elle a été tuée à Paris, son agresseur était musulman. Ça a mis beaucoup de temps à émerger dans la presse. Il a fallu attendre là aussi assez longtemps pour que la justice finisse par véritablement définir la nature de cet acte. Est-ce que contestaient certains, en tout cas ce que critiquaient certains, je pense notamment à la philosophe Alexandra Léniel-Lavastine, c'était que il y avait une trop grande retenue des médias en France à l'égard des actes antisémites qu'on refusait de nommer des choses, notamment parce que dans certains cas, cela a impliqué des musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien, je pense que les médias sur ce sujet ne sont pas si mauvais. Voilà, je vous le dis franchement. Je pense qu'il y a quand même un relais des actes antisémites. Je sais bien que quand on est meurtri personnellement, et parce qu'on est juif, c'est mon cas d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas, on a tendance, c'est normal, il y a une souffrance particulière, hein, à penser que ce n'est pas relayé, on n'en parle pas assez, etc., par rapport à d'autres choses, etc.
Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même des cas d'excès de prudence ?
Je crois que ce n'est pas toujours, je crois quand même, bon, et dans le cas particulier du cas que vous avez donné, bon, il y avait des problèmes dans cette affaire. C'est compliqué, les affaires de justice. J'en ai aussi un petit peu marre qu'on demande à la justice de régler des problèmes politico-sociaux. Hein. La justice, elle fait avec ses catégories, ses individus. Parfois, les cas s'avèrent complexes. Et on voudrait vraiment que la justice fasse ce que la société veut, ce que les médias veulent. La justice, c'est pour ça que, par ailleurs, je pense que le droit, c'est un outil, mais vraiment, vraiment pas le seul. Et peut-être, parfois, ça se retourne contre la visée. Donc, voilà. Non, je ne pense pas que les médias soient horribles sur cette question de l'antisémitisme.
C'est pas ce que je laissais entendre non plus. Hein. Mais moi, je me souviens par exemple de l'affaire. Alors, Ilan Halimi, cette fois, ça remonte déjà à quelques années, où il y avait quand même une prudence médiatique assez importante. Moi, je me souviens à l'époque, je présentais les journaux de France Culture. Il avait quand même fallu du temps pour qu'on prenne la mesure de la gravité de cet enlèvement qui s'était soldé par la mort de ce jeune homme. Qu'en pensez-vous, Magali Lafourcade et Laurent Bigorgne? Magali Lafourcade.
Moi, je crois que c'est toujours très difficile. Pour avoir été juge d'instruction, je me dis que, enfin, le temps de l'instruction de la justice est long. Donc, je vois bien à quel point les éléments peuvent être difficiles, exemptés comme ça, à mettre sur la table. Alors, j'imagine qu'à quel point c'est encore plus difficile pour les médias. On a pu reprocher le cadrage médiatique, le cadrage politique, notamment dans les émeutes de banlieue qui ont été vraiment mal cadrées comme étant un problème identitaire, ce qui n'était absolument pas ce qui était en cause. On peut après dire de manière à distance que l'événement a été mal cadré. Je pense que c'est quand même extrêmement difficile dans l'instant de pouvoir évaluer les choses à sa juste mesure, et c'est l'intérêt des débats comme celui-là, c'est aussi d'avoir des points de vue différents qui sont échangés.
Et est-ce qu'on pourrait dire la même chose d'ailleurs au sujet de la réaction qui a été celle qui a suivi l'agression d'Alain Finkielkraut, c'est-à-dire difficile aussi de mesurer l'exacte ampleur de ces actes et de cette agression. On a vu que très très vite ça a pris une ampleur assez incroyable.
Hein, médiatiquement, voilà. On est quand même tous d'accord. On parle de l'antisémitisme là depuis
bien sûr. Jours,
beaucoup, et je trouve ça bien. Mais c'est un peu ce que je voulais dire aussi tout à l'heure sur la manifestation. C'est bien, enfin c'est important aussi notamment pour les Juifs de savoir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont choqués, mais ça peut être aussi un peu contre-productif. C'est-à-dire, il y a pas mal de gens qui trouvent que qui détestent les médias de toute façon, qui pensent que c'est terrible. Si vous voulez, je pense qu'il faut le faire, mais il ne faut pas être naïf. Ça n'aide pas, ça ne corrige pas un antisémitisme ancré dans une conscience. Hein.
Laurent Bigorgne.
Oui, je pense qu'en réalité, on a eu l'habitude que tout soit simple, au sens où... Je reprenais hier soir en préparant l'émission les différentes saillies de Jean-Marie Le Pen depuis 1985. Si j'ose dire, c'était déjà extraordinairement nauséabond et détestable, mais c'était simple. C'était l'antisémitisme d'extrême droite et d'un antisémitisme parfaitement décomplexé. De 1985, je ne vais pas égrener ici les choses, ce serait lui faire trop d'honneur, mais qui a émaillé à travers un certain nombre de jeux de mots, de saillies, et de choses assez nauséabondes, encore une fois, le débat public. On est aujourd'hui face à quelque chose de beaucoup plus complexe. Et c'est aussi pour ça qu'il faut chercher à l'aborder, à le comprendre. Ce n'est pas les médias qui aident le mieux, c'est la science qui aide le mieux, ce sont les sciences sociales. C'est des travaux qui doivent être conduits auprès des jeunes de ce pays pour comprendre sociologiquement où sont les racines du mal dont on parle. C'est ce que font d'ailleurs un certain nombre de sociologues. Hein. Je me réfère aux travaux d'Olivier Gagan, d'Anne Huxel. On cherche à comprendre pourquoi il y a une radicalisation qui n'est d'ailleurs pas que musulmane. Qui peut tout à fait concerner d'autres religions. Et il faut ensuite accepter de caractériser les choses, parce qu'on a déjà un certain nombre de choses qu'on sait. Et c'est vrai que c'est désagréable, parce que ça nous renvoie à une image qui n'est pas saine, où on attendrait la France aujourd'hui. Mais je pense qu'il ne faut pas en avoir peur.
Mais dans la mesure, Laurent Bigorgne, où c'est quelque chose qui est plus complexe, est-ce que vous êtes, par exemple, choqué, disons, que l'on puisse, puisque c'est ce qui s'est passé aussi, notamment sur les réseaux sociaux, que l'on puisse discuter de la nature de l'agression verbale dont a été victime Alain Finkielkraut, certains disant, mais on n'a pas entendu les termes sale juif, donc ça n'est pas forcément de l'antisémitisme, ça relève peut-être davantage de l'antisionisme. Est-ce que, avant d'aller d'ailleurs sur cette distinction, mais sur le simple fait d'en discuter, discuter et d'en débattre. Est-ce qu'il faut c'est quelque chose de choquant ou pas?
Par définition, on a le droit de débattre. Ensuite, si vous m'interrogez sur la différence entre antisémitisme et antisionisme, je vous dis faire une réponse assez lapidaire. Dans le cas présent, j'en vois aucune. De la même façon que la contestation de l'existence du génocide était une forme nouvelle d'antisémitisme, le fait de, au fond, assimiler les Juifs à l'État d'Israël est une forme d'antisémitisme. C'est une idéologie qui mute, c'est une idéologie qui épouse les contours du temps et qui est extraordinairement spécieuse.
L'antisionisme est une des formes modernes de l'antisémitisme. Ça, c'est une des choses qu'a dite Emmanuel Macron lors du dîner du CRIF. Vous êtes d'accord avec cette phrase-là, Magali Lafourcade?
Alors non, je pense que l'étude de la CNCDH montre que effectivement cette forme
CNCDH, je rappelle, la Commission nationale consultative des droits de l'homme.
Voilà, qui est le rapporteur national indépendant sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Donc nous mesurons en fait ces phénomènes-là et donc nous voyons que il émerge cette extension à l'antisionisme émerge, mais elle est encore assez minoritaire. Ce qui existe, ce qui est révélateur dans les enquêtes de la CNCDH, c'est le vieil antisémitisme. Celui qui est articulé autour de trois préjugés qui sont extrêmement structurants dans la société. Les juifs auraient un rapport particulier à l'argent, les juifs auraient un rapport particulier au pouvoir, et cette histoire de double allégeance dont parlait Laurent Bigorgne, donc avec cette assimilation au fait que les juifs français seraient pas vraiment des juifs comme des français comme les autres, ce serait quand même, ils ont une allégeance à Israël. Donc l'antisionisme, on sait bien, nous les magistrats, que ça peut être un moyen de masquer par une critique politique un véritable antisémitisme. Et les magistrats sont habitués à débusquer ce discours-là, et je crois que ça doit se passer dans les tribunaux, et ils sont outillés pour ça. D'ailleurs, sinon, certains qui ont été condamnés récemment n'auraient pas pu l'être si on faisait un distinguo trop ferme. Mais par contre, considérer que il faut faire un amalgame et que la critique politique devrait intégrer l'antisémitisme, ça c'est un recul de la liberté d'expression.
C'est un risque, Géraldine Mühlmann, que cet amalgame puisse advenir justement entre antisionisme et
antisémitisme. Juridiquement non, parce que si j'ai bien compris, Emmanuel Macron a dit officiellement qu'il renonçait à mettre cette catégorie dans les délits avec l'antisémitisme et lié à l'antisémitisme dans les catégories des délits de liberté d'expression. Je pense qu'il l'a bien fait. Tout le monde sait, c'est pas un scoop, que dans la critique d'Israël, il peut y avoir, et on a tous fait cette expérience dans nos discussions, moi je suis très critique d'Israël, et j'ai connu beaucoup de juifs et de non-juifs avec qui j'ai discuté du sujet, et nous savons tous qu'il peut y avoir de temps en temps quelque chose qui sent pas bon, qui sent l'antisémitisme, c'est clair. Et d'ailleurs, parfois, c'est pas dans la virulence du propos contre Israël, c'est presque indéfinissable, de ce point de vue-là, ça relève pas forcément du droit, ça relève de l'intuition, de la sensibilité, de cette espèce de savoir sédimenté qu'ont beaucoup de juifs, mais que certains non-juifs ont évidemment aussi, qui fait qu'on sait et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se règle avec les juifs, au-delà de la question d'Israël. Mais je voudrais aussi dire qu'il existe, et j'ai aussi plein d'exemples personnels, des gens qui critiquent avec une virulence terrible, qui ne me fait pas peur, la politique d'Israël, le comportement de ses dirigeants, et je dois vous dire que j'en fais partie, et qui, juifs, pas juifs, n'ont pas la moindre ambiguïté sur la question juive, ne sont absolument pas suspects d'antisémitisme. Là aussi, je peux pas vous donner des critères précis. Je pense que je fais partie des gens qui le sentent assez vite parce que je suis sensibilisée à ce sujet, mais plein de gens le sentent. Donc bon, ça, ce que je viens de vous dire, je pense que vous voyez à quoi ça renvoie. On peut pas le généraliser. Ça arrive souvent, mais pas toujours, que la critique d'Israël cache de l'antisémitisme. Maintenant, le mot d'antisionisme, faut arrêter avec ce mot, c'est n'importe quoi, ça veut rien dire, ça veut pas dire critique d'Israël. Le sionisme et l'antisionisme, c'est d'abord un débat juif. Avant la création d'Israël, il y avait des juifs sionistes, des juifs pas sionistes, antisionistes. Donc déjà, c'est un mot complètement piégé. Ensuite, une fois qu'Israël est créé, d'une certaine façon, on n'est plus sioniste ou antisioniste. Il y a une existence d'Israël. La question, après, c'est la critique de l'existant. Et puis après, vous avez le cas particulier de ceux qui refusent, qui veulent lutter idéologiquement contre l'existence d'Israël.
Ce serait ça l'antisionisme, peut-être.
Alors,
justement,
il faut dire ce que c'est.
C'est être contre l'existence d'Israël.
D'accord, j'entends, mais alors il faut dire les choses. Moi, je déteste les mots valises où on met plein de choses dedans, et du coup, on peut leur faire dire plein de choses. Ce mot ne va pas. Je pense qu'il faut être aussi précis que vous venez de l'être.
Ce mot est complexe, et en tout cas, il faudrait éviter de l'inscrire dans la loi, Laurent Bigorgne, ou bien est-ce qu'au contraire, ça permettrait de lutter plus efficacement contre l'antisémitisme.
Je suis complètement d'accord avec Géraldine. Je pense que ce mot ne va pas nous faire progresser d'un centimètre dans le débat. Il est chargé d'histoire parce qu'il correspond effectivement à un débat qui s'est tenu à une certaine époque. Si le fait d'être antisioniste, c'est de souhaiter la fin de l'État d'Israël, il y a un vrai problème parce que c'est pas ça du tout que ça veut dire étymologiquement. On voit bien qu'on est là sur quelque chose, je le redis, d'extraordinairement spécieux. Ceux qui aujourd'hui, au fond, n'osent pas s'avouer antisémites et ne souhaitent pas, pour des raisons de stratégie ou de calcul politique, se disent antisionistes. On peut leur laisser cette facilité, on peut aussi les poursuivre pour leur antisémitisme réel le plus souvent. Moi, j'aimerais orienter le débat vers une autre question, parce que là, on parle beaucoup de ce qui est visible. Et il faut aussi, quand on parle d'antisémitisme, parler de ce qui est invisible. Tous les débats qu'on a renvoient à des choses visibles, puisque c'est des actes qu'on voit se déployer dans l'espace public. Il se trouve qu'à l'Institut Montaigne, on a fait il y a 5 ans une étude sur les élasticités, pardon de ce mot un peu compliqué, en tout cas les réactions des employeurs à des CV à raison de l'origine religieuse portée par ces CV. Et qu'à l'époque, on a eu un grand débat dans la presse sur, au fond, on se rendait compte qu'à CV identique, au moment du recrutement, c'est-à-dire au moment d'être rappelé après avoir envoyé un CV, et d'entrer dans la première étape du recrutement, quand on était perçu comme catholique ou chrétien, on était rappelé une fois sur quatre, une fois sur cinq. On s'est rendu compte que quand on était perçu comme musulman, on était rappelé une fois sur 20. Vous voyez, une différence terrible, et qu'il faut absolument réduire et combattre. Mais je vais ce soir, compte tenu du thème de l'émission, dire ce qu'il en était quand on était perçu comme juif. Eh bien, quand on était perçu comme juif, il fallait à peu près envoyer 7 CV pour être rappelé une fois. Et à l'époque, on m'a dit, mais donc il n'y a pas de différence. Mais si, il y a une différence de 40% entre 1 sur 5 et 1 sur 7. Et 40%, quand on regarde le même type d'expérimentation sur le marché du travail américain, c'est la différence entre un noir et un blanc. C'est la même discrimination, quand on est perçu comme juif, que d'être noir aux États-Unis. Et donc, je pense que ça, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'antisémitisme du quotidien. C'est l'antisémitisme de tous les jours et qui ne dit pas son nom, qui ne se dévoile jamais et qui existe. Et c'est là aussi qu'à mon avis, on a du travail, beaucoup plus en prévention, beaucoup plus, j'allais dire, en éducation, qu'évidemment en sanction, puisqu'on n'arrive pas à l'attraper.
Magali Lafourcade.
Oui, je crois que sur les études, c'est un sujet extrêmement important. La CNCDH, donc, elle fait une étude sur la France entière, la France dans sa diversité. Et elle montre que donc l'étude est portée depuis 1990. Et depuis les années 2000, ce qui apparaît c'est que la France donc est plus ou moins tolérante, mais il y a une constante, c'est que les Juifs sont la minorité, le groupe, l'appartenance la mieux acceptée dans la hiérarchie des rejets. Les Roms sont tout en bas de l'échelle et les Juifs sont tout en haut. Il n'en demeure pas moins que quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a énormément de vieux préjugés qui sont très vite réactivés et qui sont parfois réactivés contre d'autres groupes. Par exemple, mais les Juifs, leur religion, ça nous pose aucun problème. C'est pas comme les musulmans avec leurs prières de rue. Vous voyez, ou les Juifs sont travailleurs, ou les Asiatiques sont travailleurs. C'est pas comme les Roms qui sont désassistés. Donc, on perçoit à quel point la dynamique des préjugés, la cohérence des préjugés est totale. Mais ça suffit pas. Parce que, comme l'a dit Laurent Bigorne, il faut aller voir un peu plus loin. Et le problème, c'est que ceux qui commettent les actes dans une société qui est de plus en plus tolérante, c'est les groupes les plus violents, les plus énervés. Or, à ce sujet, il y a énormément d'idées reçues, ou je ne sais pas si c'est des préjugés ou pas, puisqu'on ne les a pas vraiment analysés dans le détail, comme l'idée que les Français issus de l'immigration seraient plus tolérants parce qu'ils auraient vécu eux-mêmes des choses assez dures, ou dans les banlieues, il y aurait plus de racisme anti-blanc, ou alors les Français d'origine maghrébine aimeraient moins les Juifs que les autres. Mais ça, il faut aller le vérifier. Et donc, à la CNCDH, moi j'en ai parlé au cabinet du Premier ministre et surtout à la DILCRA, la délégation interministérielle contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, pour proposer, puisqu'on avait vu monter la baisse, enfin on avait vu le fait que les chiffres d'antisémitisme étaient en train de s'aplatir un petit peu et on avait perçu le début de quelque chose qui était inquiétant. Donc j'avais proposé qu'avec une équipe de Sciences Po, de chercheurs, on puisse aller plus loin avec des études sur les préjugés interculturels, les préjugés interethniques, même si le mot est difficilement acceptable, mais pour creuser un peu plus loin. Et je n'ai pas eu d'aide pour financer cette étude. Et je le regrette vraiment parce que je crois que ça nous aurait énormément éclairé sur des choses qui sont dans le débat public mais que nous n'avons pas vérifiées scientifiquement.
Mais on a évoqué, Magali Lafourcade, ce soir les chiffres du ministère de l'Intérieur qui sont annuels. Il y avait donc cette étude de l'Institut Montaigne. Il y a le rapport que fait chaque année la CNCDH. Ça veut dire qu'on manque encore de données et d'enquêtes pour mesurer, pour évaluer véritablement ce que représente l'antisémitisme en France aujourd'hui et les formes aussi qu'il peut prendre, puisqu'on parle souvent, ça a été le cas d'ailleurs il y a une semaine dans cette émission, du nouvel antisémitisme.
Oui, parce qu'en fait, quand on veut faire une politique publique de lutte contre un phénomène, au-delà de l'affichage, c'est le début de l'émission, hein, il faut absolument se doter d'outils d'analyse pour pouvoir après cibler la politique d'un point de vue éducatif, d'un point de vue policier, d'un point de vue judiciaire. On a énormément d'outils. Mais si on ne sait pas contre quoi on lutte parce que on fait des études trop larges ou parce que quand les choses s'aggravent, on réagit pas, là, il y a une responsabilité de l'État.
Il suffit donc pas de dire qu'on va lutter contre l'antisémitisme, il faut savoir précisément contre quoi on lutte. Et c'est ce qui ressort aussi de cette discussion.
Non, c'est très intéressant ce que vous avez dit, Magali Lafourcade, sur les études. Moi, je voudrais juste dire que même quand on sait tout, si on savait tout, c'est quand même la chose la plus difficile à combattre, hein, le préjugé. Je vais juste vous raconter une toute petite histoire. Dans les années 60-70, je fais exprès de décaler, et c'est la vérité, c'est une histoire vraie, dans une grande ville de province, un patron de médecine a dit à quelqu'un que je connais très bien, et qui est une personne juive, « Oh, vous autres, les juifs, vous êtes toujours riches. Je ne connais aucun juif pauvre, ça n'existe pas, ou même modeste. » Et cette personne, que je connais très bien, a répondu, « Mais regardez votre femme de ménage dans ce bureau, dans un service de médecine. Cette femme qui fait le ménage dans votre bureau, elle est juive. » C'était une femme juive, en effet, d'Afrique du Nord. Et là, il était soufflé. La question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que cette réalité, c'est une réalité là, empirique, hein, qu'on lui donnait contre son préjugé, est devenue moins antisémite ? Je ne sais pas, hein, la vérité, mais je pense qu'on touche là exactement à la force extraordinaire des préjugés par rapport au petit réel. Je pense que le petit réel accumulé peut faire bouger à terme les préjugés. Mais c'est une lutte énorme et beaucoup de gens dans le préjugé, vous pouvez leur mettre autant de réel que vous voulez. Le fantasme est plus fort. C'est terrible. Je suis désolée de finir sur cette note pessimiste. Enfin, on est quand même dans le... Enfin, je veux dire...
On n'est pas tout à fait à la fin. Donc, voilà. Je ne sais pas si on va trouver une note plus optimiste, mais en tout cas, on n'est pas encore tout à fait à la fin, Géraldine Mühlmann. Quand les préjugés sont installés, c'est compliqué de lutter contre, Magali Lafourcade.
Oui, alors je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste. Bien sûr, c'est très difficile de déconstruire un préjugé. On peut y arriver par différents moyens. On peut les mesurer, même parfois c'est le témoignage, parfois c'est les données chiffrées, par exemple. Quand on parle de grands remplacements, il suffit d'expliquer combien il y a d'immigrants en France, combien il y a de musulmans. Et alors là, tout de suite, les idées sont remises un peu à leur place. Mais pour être optimiste, je peux vous dire que dans les études de la CNCDH, puisqu'on fait ça depuis quand même 30 ans, on voit que le niveau de diplôme est un niveau de baisse du préjugé raciste. Que plus vous êtes diplômé, plus vous êtes tolérant. On voit que plus vous avez d'expérience transnationale, des déplacements à l'étranger, des voisins qui sont étrangers, des amis qui sont étrangers, un petit ami qui est étranger, plus vous êtes tolérant. On voit aussi que le fait d'être jeune est un levier de tolérance, puisque vous êtes construit à un moment où dans l'imaginaire collectif, il y avait ce discours de tolérance. Les gens qui sont nés après la guerre, il est évident qu'à cette époque-là, la France était antisémite. Donc, ceux-là, ils sont construits dans cet imaginaire-là. Aujourd'hui, le discours, c'est de l'antiracisme. C'est ça, la norme sociale. Et ça s'est intégré dans les jeunes générations, même si, bien sûr, il y a aussi des racistes. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque génération, chaque niveau de diplôme, etc., emporte avec soi une possibilité de plus d'ouverture, et c'est une chance.
Voilà, qui doit intéresser quelqu'un qui s'est beaucoup... intéressé justement aux questions scolaires, Laurent Bigorni.
Bien sûr, on sait tous que l'école a un rôle très très important à jouer. D'ailleurs, on a vu en creux après les attentats qui nous ont frappés, puisque, rappelez-vous, de l'interrogation et parfois même de la perplexité ou du désarroi d'un certain nombre d'enseignants et des témoignages qui sont remontés à l'époque sur des départements très spécifiques. Je pense à celui de la Seine-Saint-Denis, mais je ne veux pas le stigmatiser évidemment. Il n'était pas le seul, sur des réactions enregistrées après les attentats, notamment au moment des minutes de silence. et parfois un renoncement à tenir ces minutes de silence quand on estimait qu'elle risquait au fond d'être violée. Ce qui veut bien dire qu'il y a un enjeu essentiel et que cet enjeu il se joue, et je suis complètement d'accord, dans l'évaluation du niveau de compétence globale de la population. Mais si on dit, ça doit pas être une incantation, il faut former les enseignants, il faut les accompagner, il faut immensément leur donner les outils pour.
Mais les former à quoi? Les former, par exemple, à être capable de répondre à des contradictions. D'abord, disons, est-ce que vraiment, je sais pas moi, par exemple, est-ce que le massacre des Juifs a vraiment existé?
Il faut commencer par des choses beaucoup plus simples. On n'apprend pas l'antisémitisme à l'école. On n'explique pas ce que c'est, on ne le déconstruit pas comme un fait social, on ne lui donne pas de portée historique ou sociologique, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps. Et donc, il y a un moment ou un autre, soit on décide d'en faire une matière commune, de l'enseigner, de l'expliquer, de le confronter à d'autres faits sociaux, soit on décide que on peut pas en parler parce que c'est des sujets dont on veut pas parler, mais à ce moment-là, on fera pas de progrès. Donc, il faut, je crois, énormément faire confiance aussi, on a la chance d'avoir des professeurs d'histoire-géographie extraordinairement bien formés, extraordinairement conscients de leur mission. Il faut leur donner du temps, il faut leur donner encore une fois les moyens, il faut leur donner les outils, puis il faut afficher des priorités. Et il y a peut-être des priorités, pour faire une paraphrase, qui sont plus prioritaires que d'autres.
En 2008, Nicolas Sarkozy avait eu une idée qui était de faire porter à chaque enfant de CM2 la mémoire d'un enfant victime de la Shoah. Ça avait provoqué beaucoup de réactions plutôt hostiles. Est-ce que 10 ans après, on peut se dire que peut-être que cette idée-là aurait mérité d'être examinée avec un peu plus d'attention? Je sais pas qui veut réagir à ça. Bah, Laurent Bigorne, et encore vous.
Autant je suis pour qu'on fasse de l'histoire, beaucoup d'histoire, qu'on apprenne le sens critique, qu'on fasse comprendre ce qu'est la République, autant je ne suis pas pour que, au fond, des simagrées politiques s'insinuent dans l'école. Je veux dire par là que si on commence à être uniquement sur le plan de l'affect, du symbolique, et si tout ça vient remplacer la compréhension, si tout ça vient remplacer le savoir, on aura un vrai sujet. Il y a quelque chose évidemment de très beau, de très profond, de très intense, à découvrir par exemple en français ou en philosophie, des textes qui vont renvoyer à la Shoah ou à l'expérience de la Shoah ou à la mémoire de la Shoah. Il y a quelque chose de très nécessaire à utiliser dans les cours d'histoire, et je pense qu'il y a encore quelque chose de plus beau, c'est de voir des enseignants de ces deux disciplines qui vont échanger ensemble sur ces objets et qui vont faire progresser la compréhension des élèves. Ensuite, je ne suis pas pour qu'on on brouille les choses ou qu'on donne le sentiment que c'est d'une certaine façon un catéchisme. Je pense vraiment qu'il faut que ça reste dans un cadre scolaire, intellectuel et scientifique.
Géraldine Neumann.
Je trouve très bien ce que vous venez de dire, Laurent Bigorne, et en particulier le fait qu'il faut peut-être apprendre l'antisémitisme. Et je dirais pas seulement la Shoah, même si bien entendu je pense qu'il faut enseigner la Shoah, parce que il y a un paradoxe qui est très difficile même à formuler, il y a toujours un risque d'être maladroit, mais c'est que la Shoah, il faut que tout le monde la connaisse, mais c'est presque trop énorme. Et ça donne cette impression, parfois, je pense, à des jeunes générations. C'est un truc dans l'histoire énorme, qui a pas de rapport clair, net, facile à établir avec nous aujourd'hui. Et souvent, peut-être qu'il faut enseigner la Shoah en rappelant l'ordinaire de l'antisémitisme allemand, mais aussi européen. Juste avant, je pense qu'il faut faire lire des textes, et bien sûr sur les camps, les témoignages, mais aussi Soldats Berlin de Hans Falada, mais aussi Histoire d'un Allemand de Sébastien Hafner, qui raconte les petites lâchetés ordinaires d'avant, ce petit antisémitisme médiocre du quotidien, qui parle peut-être davantage finalement à des jeunes qui ont l'impression là que ça leur parle directement, qui peuvent le rencontrer sous ces formes inédites ou renouvelées aujourd'hui. La Shoah, c'est très important, mais je pense qu'il peut y avoir un effet presque intimidant et étonnamment virtualisant, vous voyez, par rapport à la vie quotidienne aujourd'hui.
Eh bien, ce sera la conclusion, cette fois-ci, de cette discussion. Merci beaucoup à tous les trois, Géraldine Mühlmann, Laurent Bigorne et Magali Lafourcade. Le prochain rapport annuel de la CNCDH, c'est quand ?
Le 21 mars, chaque année, pour la Journée internationale de la lutte contre la discrimination raciale.
Voilà, c'est dans pile un mois. Merci beaucoup à tous. Cette émission, vous pourrez la réécouter, la télécharger sur franceculture.fr, la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richet, Antoine Tricot, Virginie Leduo et Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyret Legras avec à la prise de son Xavier Lévesque, Bruno Mourlan et Stéphane Touvenin. Dans un instant, ce sera la dispute avec Arnaud Laporte. Arnaud, le programme ce soir.
Cinéma, on parlera notamment de peu m'importe si l'histoire nous considère comme des barbares, un film roumain qui aura quelque écho avec votre débat de ce soir dans le Club des Idées. Demain dans Politique, Hervé Gardette.
À midi, conseiller ministériel des oiseaux de passage. Nous serons en compagnie du professeur de sciences politiques Jean-Michel Emery, 12 ans.
Parfait. Vous écoutez France Culture, les 19h, les titres de l'actualité avec Mathieu Laurent.